a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington, ravi de vous retrouver dans l'Amérique et vous. Bonne fête à toutes les femmes partout dans le monde. En cette journée internationale des femmes, l'émission est consacrée ce soir à la place des femmes dans la société américaine. Après une série de premières historiques et de percées inattendues de longue date, 2018 a été baptisée l'année de la femme. Deux ans après la défaite à la présidentielle d'Hillary Clinton, les élections législatives l'an dernier ont propulsé au Congrès un nombre record de femmes, souvent de fortes personnalités capables de bousculer le statu quo. Mais c'était aussi l'année où il y avait moins de femmes républicaines au Sénat. N'empêche, pour des observateurs, on assiste en ce moment aux États-Unis au temps des femmes. Un angle et bien d'autres encore que nous allons aborder avec nos invités. Angèle Brigitte Cuemo, avocate, femme d'affaires et ex-conseillère législative de l'élu démocrate Bobby Rush au Congrès américain. Elle séjourne au Cameroun, d'où elle va nous rejoindre au téléphone tout à l'heure. Également en ligne avec nous, mais de New York, l'activiste Taina Bien-Aimée, qui milite contre la traite des femmes et pour le respect des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des femmes. Également au téléphone, Viviane Doumbia, militante engagée dans le combat pour les femmes. Viviane qui est donc en ligne avec nous. Bonsoir Viviane Doumbia, bonne fête à vous.
Merci beaucoup, bonsoir.
Avant d'aller plus loin, parlez-nous un peu plus de vous, retracez votre parcours brièvement si vous pouvez.
Alors écoutez, j'ai commencé à me bouger un peu quand je vivais en Côte d'Ivoire pour les droits des femmes, avec un groupe d'autres dames d'ailleurs. Oui. Et nous nous étions rendus compte qu'il y avait des sujets tabous comme la violence domestique, par exemple, les femmes ne voulaient pas en parler. Oui. Et j'ai continué, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, donc, je suis aux États-Unis, je milite encore plus. Et voilà quoi. Donc, oui. Je suis beaucoup plus pro-démocrate, bien sûr. Mm-hmm. Okay.
Alors, cette année, le thème de la Journée internationale des femmes est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Il place l'innovation par les femmes et les filles, pour les femmes et les filles, au cœur des efforts pour parvenir à l'égalité entre les sexes. Quel est l'état des lieux que vous pouvez faire de la situation des femmes ici aux États-Unis?
Écoutez, cela a commencé après l'élection du président Donald Trump en janvier 2017, donc il y a eu la première marche. Et le lendemain de la marche, il y a eu donc une grande réunion de 500 personnes, dont nous étions là-bas. Et les femmes ont décidé ce jour-là qu'il ne fallait pas qu'on nous divise et qu'il n'était pas question de couleur de peau ou de problèmes sociaux. Et c'est ce jour-là qu'il a été décidé que les femmes qui étaient intéressées à être candidates devraient être supportées par les autres. Et c'est à ce moment-là aussi que toutes les organisations se sont mises en place pour pouvoir former les femmes pour qu'elles puissent s'engager. Donc le mouvement a commencé donc en janvier 2017. Et depuis lors, nous avons poussé les femmes. Et d'ailleurs, vous avez eu les résultats surtout ces dernières élections où, surtout dans le parti démocrate, où 90% des personnes élues sont des femmes. Et nombreuses d'entre elles n'avaient jamais fait de politique auparavant.
Mmh. Angèle Cuemo, bonsoir, bonne fête à vous, merci de nous rejoindre, vous séjournez en ce moment au Cameroun. Je vous ai présenté tout à l'heure ex-conseillère législative de l'élu démocrate Bobby Rush au Congrès américain. On a parlé là à l'instant avec notre autre invité Viviane Doumbia de la place des femmes ici aux États-Unis, la participation notamment à la vie politique. Alors, pour pas mal d'observateurs en ce moment aux États-Unis, c'est le temps des femmes. Hein. Qu'en pensez-vous, Brigitte?
Que cette journée, c'est une journée qui nous rappelle la lutte pour les droits de la femme, mais surtout nous permet de nous souvenir des avancées qu'on a faites par rapport à la convention, par rapport au grand débat qu'il y a eu au départ de lever cette problématique-là. Donc aujourd'hui, je suis en ce moment au Cameroun. Sur le plan politique, on a pas mal d'avancées aussi. Quand vous regardez dans le Parlement camerounais, il y a 56 femmes sur 180 qui sont membres du Parlement camerounais. On a à peu près, je pense qu'on a 21 femmes sur 100 sénateurs. Bon, sur le plan des représentativités locales au niveau des maires, bon, là on a un petit retard avec que 29 maires sur 360. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore du travail à faire, mais il faut qu'on célèbre aussi l'avancée des femmes. Hein. Et ce n'est pas simplement une question d'équité, une question économique, c'est une question de bon sens. Je pense qu'on doit louer le fait que tous les intervenants aujourd'hui, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, même aux États-Unis, on s'adresse enfin que l'avancée de l'histoire du monde se fera par la femme.
Mmh. Parlons maintenant de toutes les campagnes que nous avons vues ces dernières années. Partie des États-Unis il y a 2 ans avec l'affaire Weinstein, les mouvements MeToo ou Time's Up engrangent sur Twitter un nombre impressionnant de témoignages de victimes d'abus sexuels. Et récemment, les Africaines se sont invitées dans le mouvement en créant lors du FESPACO le hashtag Même pas peur. Parlez-nous de cela, Angèle.
C'est vrai que le mouvement de MeToo, cet effort-là, sur le terrain américain, en train de se transposer sur le continent, mais il y a une grosse différence culturelle qui justifie un petit peu le retard. Parce que en Afrique, la femme elle-même, des fois, le gros effort qu'on doit faire au niveau de la libération de nos droits, c'est un travail sur la femme elle-même. Qu'elle arrête de se plaindre et qu'on considère la capacité qu'elle a, et justement pour exercer leurs droits, les éduquer sur leurs droits pour pouvoir répondre au cas de harcèlement et autres. Mais il y a aussi une composante culturelle, la religion, l'archaïsme culturel africain qui reste encore très patriarcal, et aussi la donnée économique. Il n'y a pas d'institution suffisamment organisée qui peut vous servir de porte-parole aux femmes par rapport aux États-Unis, par exemple. Au niveau de l'emploi, c'est différent. Au niveau du système juridique, représentativité, au niveau des tribunaux, c'est différent. Au niveau de la connaissance même des droits des femmes. C'est un petit peu comme le combat de David et Goliath en Afrique par rapport en Europe ou en Amérique.
D'accord, ça c'est en Afrique. Viviane Doumbia, le 18 août 1920, les femmes obtiennent le droit de vote ici aux États-Unis. Quelles sont d'après vous les avancées qui ont été faites dans le domaine de la participation des femmes à la vie politique ici aux États-Unis?
Écoutez, dans l'ensemble, il y a eu pas mal d'avancées, mais comme l'invité, notre invité vient de parler, les problèmes qu'il y a en Afrique sont similaires à ceux que les femmes rencontrent ici aux États-Unis. La différence que les femmes ici sont peut-être un peu plus instruites, un peu plus organisées, un peu plus solidaires, et ont décidé de prendre les choses en main. En Afrique, le problème est que souvent, il y a des femmes qui se battent très fort et qui arrivent à un certain niveau de pouvoir. Et là, sont perdues dans ce pouvoir et oublient de continuer la lutte. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ce cas ici, mais bon, le droit de pouvoir voter est une bonne chose, mais il y a tellement d'autres choses. Il y a tellement de lois qui ont été votées, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou aux Nations Unies. Mais il faut les mettre en place sur le terrain. Et c'est ça le problème. Et quel que soit le continent et quel que soit le pays, nous rencontrons toujours les mêmes problèmes de discrimination envers la femme. La différence des salaires, la différence des traitements, les harcèlements sexuels, il ne faut pas en parler sinon on perd son travail et tout ça. C'est la même chose partout. Donc il faut vraiment que partout dans le monde nous restions solidaires et nous tenions bon parce que la lutte n'est pas terminée et ça ne sera pas pour demain.
Voilà, vous êtes branché sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous, au micro Jacques Aristide à Washington. Nous rejoint maintenant de New York l'activiste Taina Bien-Aimé qui milite contre la traite des femmes et pour le respect des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des femmes. Bonsoir, bonne fête à vous.
Merci, bonne fête des femmes à tout le monde.
Voilà. Nous essayons de comprendre le contexte américain, certainement. Alors, vous, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire en ce qui concerne le respect et l'évolution des droits de la femme ici aux États-Unis?
Eh bien, écoutez, là, j'écoutais ma collègue là, d'Afrique et je suis tout à fait d'accord avec elle qu'il y a des lois qui sont très fortes, mais il n'y a certainement pas de volonté politique ni d'investissement pour les mettre en place. Pour nous, ce qui se passe ici aux États-Unis, c'est très paradoxal. Bon, moi, je travaille surtout dans le milieu de la traite, violence sexuelle, exploitation sexuelle et l'exploitation de la prostitution surtout. Et on voit là maintenant, disons, une réalisation avec le MeToo movement, comme quoi les femmes maintenant, elles peuvent revendiquer lorsqu'elles ont été victimes d'harcèlement sexuel, de violence, etc., d'abaissement, de déshumanisation, etc. Mais maintenant, le grand débat ici aux États-Unis, surtout on voit avec les candidats présidentiels, c'est cette notion de prostitution comme travail. Alors, il y a maintenant un énorme mouvement qui est soutenu par un lobby de l'industrie du sexe. Hein. Je sais que c'est un mot très fort, mais bon, c'est un lobby comme un autre, qui vraiment est en train de pousser pour reconnaître la prostitution comme un employeur, comme tous les autres. Alors, on parle de dépénalisation du système prostitutionnel sans tenir en compte qu'en fait, c'est un système qui vit sur le proxénétisme et qui est en fait facilité par la traite. Donc, pour nous, nous vivons vraiment un moment où ce se freine, en fait, hein, parce que d'un côté, il y a des législateurs, il y a des politiciens qui disent « Ah non, nous reconnaissons les violences faites envers les femmes, nous reconnaissons l'égalité, la parité au travail, représentation politique. » Mais si ces violences sont payées, c'est-à-dire que si un homme peut payer pour toutes ces violences, alors on est d'accord. Alors, moi, je suis abasourdie de voir, je suis à New York, donc nous avons des sénateurs ici à l'État, au niveau de l'État. Il y a Bernie Sanders, Kamala Harris, et d'autres candidats présidentiels qui, tout d'un coup, voilà, propose le proxénétisme comme un moyen pour les femmes les plus vulnérables de s'en tirer dans la vie sans mettre en cause le système prostitutionnel. Donc voilà, c'est la lutte d'un côté devient plus facile, mais d'un autre plus catastrophique pour les femmes et filles les plus vulnérables.
Nous avons au téléphone une auditrice, elle nous appelle de Ouagadougou, Ouedraogo Ili Chantal, qui est enseignante. Bonsoir, bienvenue, bonne fête à vous également, et Ili Chantal. Avez-vous une question pour nos invités ce soir?
Une question pour
nos invités.
Une question par rapport à...
Donc, nous sommes en train de parler de la situation des femmes ici aux États-Unis, mais évidemment, il y a tout un lien. En fait, vous-même, Élie Chantal, y a-t-il des militantes américaines qui vous ont inspiré, qui vous inspirent dans ce que vous faites?
Bon, bien sûr, oui.
Oui.
Oui, mais je voudrais parler de l'émancipation de la femme.
Allez-y, donc on vous écoute.
Oui, et en Afrique, nous parlons de l'émancipation de la femme, mais en réalité, bon, la femme est toujours soumise. Elle est toujours victime de mots par-ci par-là, de viols, bon, de plusieurs mots dans le foyer. Et vraiment, c'est un problème que nous vivons du jour au lendemain. Et je pense que chez vous, là-bas, les femmes ne connaissent pas cela. Et ici, notre problème, le mariage est en quelque sorte une obligation. Même quand même ça ne va pas dans le foyer, on dit de rester, que c'est comme ça. Et nous sommes vraiment, il y a des femmes même, qui si vous luttez jusqu'à jusqu'au péril de leur vie, vraiment, c'est un problème que nous vivons ici, quotidiennement.
Ili Chantal Ouedraogo, vous êtes à Ouagadougou, je vous remercie. Angèle Kouemo, un commentaire.
Oui, je voudrais simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que, les interventions de mes collègues sur le panel. C'est vrai que mais aux États-Unis, il faut qu'on regarde aussi le facteur noir, le combat des femmes et le combat des femmes noires. C'est vrai avec l'affaire R. Kelly qui est en train de tuer la toile en ce moment et d'autres composants, des problèmes de violence faite aux enfants, de violence faite aux jeunes. Toute la représentativité, le combat est fait en majorité par des femmes noires. Et pour cela, je pense qu'il faut aussi qu'on mette un accent dessus et surtout qu'on les félicite pour leur engagement. Voilà, maintenant, sur le plan politique, on a des femmes qui font la différence dans le Parti démocrate, comme la candidate malheureuse au gouverneur de Atlanta et puis la sénatrice Kamala Harris. Je pense que nous avons fait la différence. Et aussi un facteur aussi, je reviens sur le continent africain.
Il faut préciser, Angèle, qu'aux prochaines primaires démocrates, il y aura quand même un nombre important de femmes en vue de l'investiture d'un candidat ou d'une candidate pour la présidentielle de 2020.
Oui, ça c'est clair, mais il y a une chose qui est sûre aussi, quand vous regardez un petit peu les nouvelles stratégies qui sont mises en place, même dans la composition des bureaux, des équipes de stratégistes, la femme, cette constituency-là, cette base électorale va jouer un rôle déterminant. Les femmes, les jeunes et les femmes noires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même parmi les candidats hommes, il y a beaucoup de jeunes femmes noires qu'on prend comme stratégistes, justement pour faire un appel à ce type cet électorat-là. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les femmes ne se positionnent plus simplement en victimes. Maintenant, elles prennent un petit contrôle de leur destinée. Et de plus en plus, elles veulent vraiment avoir une place à table. Quand vous n'êtes pas dans le menu, vous êtes sur la table.
Alors, Angèle, quelle réaction pouvez-vous avoir concernant cette femme qui a été à l'origine d'un vote d'avertissement hier, en fait, au Congrès, la Chambre basse américaine, qui a approuvé à une très large majorité une résolution condamnant les discours de haine après des débats houleux au sein du Parti démocrate sur l'antisémitisme provoqué par les propos d'une élue. Il s'agit de Ilhan Omar concernant le soutien des États-Unis à Israël.
Non, vous savez, c'est un débat qui était très intéressant et très passionné. Et cette question, la question de religion, la question de genre, et même en même temps la question d'ethnicité, reste toujours très très sensible dans les États-Unis. Il y a eu des débats très passionnés. C'est pour ça que vous avez vu des positions et extrêmes et modérées. Mais à la fin de la journée, ce que je voudrais dire, c'est que cette tranche d'âge, les jeunes femmes noires, toute la nouvelle génération qui arrive au Congrès maintenant, vont devenir la conscience du Congrès. Elles prennent des positions des fois qui ne sont pas très populaires. C'est arrivé avec Ilhan Omar. Je pense qu'elle n'avait pas l'intention c'était pas intentionné l'erreur qu'elle a commise. Mais il y a toutes les jeunes femmes qui sont élues maintenant vont de plus en plus.
Sauf qu'elle a fait des commentaires à plusieurs reprises.
Comment ?
Sauf qu'elle a fait des commentaires de ce genre à plusieurs reprises.
Oui, bon, je ne pense pas que ce soit motivé. Pas foncièrement, je ne pense pas qu'elle soit anti-juive. Mais elle est peut-être jeune politique. Elle fait ses débuts dans l'environnement de Washington. Elle va faire des erreurs, mais après, je pense qu'elle va comprendre. Mais justement, c'est toutes ces jeunes-là, ces jeunes, elle et puis la dame de New York, c'est des femmes qui ne font pas partie de l'établissement politique normal. Donc, bon, forcément, que ce soit sur une question ou une autre, avoir des positions qui sont plus ou moins impopulaires. Le temps de se ranger à la culture washingtonienne, la culture de haute politique qui veut qu'on reste dans le vraiment très, très comment dire, gris, ni noir, ni blanc, mais vraiment très modéré. Je pense que c'est une expérience qu'elle a eue, ça vient du fait de sa naïveté politique, ouais. Tout simplement.
Et la jeune dont vous parliez, il s'agit d'Alexandria Ocasio-Cortez. Et d'ailleurs, donc, c'est vrai que les dernières primaires ont révélé pas mal de surprises, notamment, et aussi, comme on l'appelle ici, Alexandria Ocasio-Cortez, qui a émergé sur la scène nationale. Alors, Taina Bien-Aimée, donc justement, on voit l'émergence de toutes ces jeunes et justement qui tentent d'apporter pas mal de changements, par exemple, au sein du Parti démocrate. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, ce sont les bienvenus, n'est-ce pas? J'entends qu'il était temps, hein, mais il faut aussi se souvenir que les États-Unis est un pays très complexe, dont l'histoire d'esclavage, de racisme, de misogynie, enfin, est très... est à la surface, j'entends. Et donc, c'est clair qu'il y a énormément de résistance à ces jeunes femmes vis-à-vis de leurs idées, vis-à-vis de leurs projets, de leurs plans, de leurs paroles. Ceci dit, je pense que c'est pas parce que c'est une femme qu'elle est nécessairement féministe ou qu'elle elle porte dans son cœur les intérêts de toutes les femmes et comprenne vraiment ce que c'est l'égalité. Et donc, il faut aussi faire très attention. J'entends qu'il n'y a rien d'acquis. Hein. J'entends que nous sommes toutes et tous le résultat, le produit de réalités socioculturelles et historiques, dont le patriarcat, n'est-ce pas? Donc, l'essence de ce qu'on combat. Et donc, je crois qu'il faut, il faut toujours être critique. Nous sommes vraiment les fêtes. C'est extraordinaire qu'il y ait autant de femmes soi-disant progressistes, qui se nomment progressistes, qui soient maintenant au pouvoir. Mais à savoir ce qu'elles vont faire avec ce pouvoir, c'est à voir. Et nous, en tant que société civile, c'est très important de rester critique vers elles au niveau des droits des femmes et de l'égalité des femmes en tout compte et en toute espèce.
Cap sur la République démocratique du Congo, où nous attend au téléphone une auditrice, Esther Gomba. Bonsoir, bonne fête à vous également. Un commentaire, une question à nos invités ce soir. Esther, vous êtes à l'antenne, allez-y. Ah, évidemment, il y a pas mal de petits problèmes comme ça au téléphone, surtout quand il s'agit de la RDC. Alors, au téléphone, nous avons toujours avec nous Viviane. Viviane, oui. On va terminer l'émission dans quelques instants. Et quel serait votre mot de la fin?
Ok, mon mot de la fin serait de répondre à la dame du Burkina Faso.
Oui.
Qui a posé des problèmes concrets des femmes en Afrique. Et donc, c'est un problème partout, mais en particulier en Afrique, les femmes ne peuvent pas se plaindre. Et quand il y a des problèmes dans les mariages et qu'elles vont voir leur famille, on leur dit « Ah, le mariage, c'est comme ça, il faut y rester ». Il faut que les femmes comprennent qu'il faut qu'elles bougent plus. Comment, ça dépend de l'environnement culturel. Mais si elles ne se lèvent pas pour faire comprendre, faire entendre leurs besoins, cela va continuer. Il faut arrêter d'avoir des tabous, il faut être un peu courageuse. Moi, je me rappelle quand j'étais en Afrique et que je parlais, les gens disaient « Oh, surtout, il ne faut pas dire ça ». Non, il faut parler, il ne faut pas avoir peur de parler parce qu'au bout d'un certain temps, les gens vous écoutent. On prend l'exemple de la représentative Maxine Waters. Elle parle, elle dit tout ce que tout le monde pense. Il faut parler pour avoir une place à la table des discussions.
D'accord. Alors, voilà. Très rapidement, Angèle, on sait que le modèle américain parfois est contesté. Il y a encore des lacunes au niveau du respect et de l'évolution des droits de la femme ici. Mais très rapidement, que peuvent tirer comme enseignement, que peuvent apprendre les Africaines, d'après vous, du modèle américain?
Pour conclure, ce que je pense qu'on peut tirer et l'enseignement qui est crucial, c'est la capacité de s'organiser et la capacité de travailler ensemble. Aux États-Unis, le système est fait pour fédérer. Les gens évoluent en groupe. La société civile est très organisée. Le secteur privé connaît l'importance de la société civile et de finances. Et le politique connaît aussi l'importance de la société civile. Donc là-dessus, je pense que l'Afrique, les sœurs africaines devaient penser à travailler ensemble, se soutenir, développer un peu plus.
Angèle, je vous remercie. Oui. Je vous remercie. Voilà, Angèle Kouemo, Taina Bien-Aimée et Viviane Doumbia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir été à l'écoute ce soir. Restez branchés sur VO Afrique. Dans quelques instants, Le Monde aujourd'hui avec Morgane Guerriec et Claire Morin-Gébourg. Merci à Cheikh Thierouf. Voilà, très bonne soirée sur VO Afrique.